en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Bonjour, bienvenue dans cette émission en séance. Vous retrouvez dans quelques instants la communication de Franciscus Verhelen de l'Académie des inscriptions et belles-lettres qui présentait le 24 septembre 2010 le rapport des activités de l'École française d'Extrême-Orient en 2009-2010 dont il est directeur. Comment l'EFEO consacre-t-elle ses moyens à la recherche sur l'Asie? Quels sont ses engagements? Canal Academy vous propose dans quelques instants l'intégralité de la communication.
En prélude, il paraît intéressant de noter que si en ce début du XXIe siècle, maints instituts de recherche et universités de par le monde consacrent des moyens considérables à la recherche sur l'Asie dans des domaines aussi variés que les disciplines académiques qu'ils embrassent, aucune institution n'ancre autant son approche du continent asiatique et de ses civilisations classiques dans la recherche sur le terrain que ne le fait l'École française d'Extrême-Orient. Depuis ses origines coloniales en Indochine, les savoirs de l'EFEO progressent en tissant l'érudition et vécu, philologie et anthropologie sociale, archéologie et conservation monumentale, en un mot, texte et terrain. Incontestablement française, l'EFEO est profondément engagé dans la coopération internationale, d'abord avec les institutions savantes des 12 pays d'Asie, où elle est à présent implantée, de l'Inde au Japon, et leurs animateurs, mais aussi avec ses partenaires européens. Depuis septembre 2007, l'EFEO anime et coordonne en effet le Consortium pour la recherche sur le terrain en Asie, ICAF, qui comprend à date 45 membres, dont 33 dans 10 pays d'Europe et 12 membres associés dans 10 pays d'Asie et en Russie. Nous avons abordé l'année universitaire 2009-2010 dans un contexte français et européen particulier qui mérite en préalable d'être précisé sur deux plans. Au plan de la gouvernance, dans l'esprit de la récente loi relative aux libertés et responsabilités des universités, les directeurs généraux pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle a pris cette année l'initiative d'une réforme des statuts des écoles françaises à l'étranger, avec comme objectif l'élaboration d'un décret unique pour les 5 établissements. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a instauré, par ailleurs, des pôles de recherche et d'enseignement supérieur, PRES, qui ont pour vocation de permettre à plusieurs institutions d'enseignement et de recherche, universités, organismes de recherche, grandes écoles, de mettre en cohérence leur offre de recherche et de formation et de la rendre plus lisible en France et au niveau international, voire de mutualiser certaines activités ou certains moyens. Au plan du financement, si le soutien du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche y restait intact avec des dotations en progression au sein du plan quadriennal 2008-2011, pour les crédits de fonctionnement, d'investissement, notamment pour des grands projets de numérisation de l'école, celle du ministère des Affaires étrangères et européennes pâtit en revanche d'une réduction sensible des financements locaux en Asie. Le rapport présente d'abord, en synthèse et regroupé en 3 grands axes, l'activité scientifique de l'établissement et l'avancement des programmes de recherche des 42 enseignants-chercheurs titulaires de l'EFEO regroupés en 5 programmes. Vous voyez ici cette structuration de la scientifique de l'établissement en 3 axes et 5 programmes. Le premier axe, sources textuelles et traditions vivantes, inclut 2 programmes. Le premier d'entre eux, Corpus du monde indien, placé sous la direction de M. Domenico Dal, contribue par des très, très nombreuses publications et un enseignement régulier dispensé à Paris, Hambourg et Pondichéry à la connaissance de l'Inde en général et de l'Inde méridionale. De nombreux travaux ressortissant à l'indologie traditionnelle ont été poursuivis et on a assisté à l'intensification de la publication d'éditions critiques conçues avec des spécialistes locaux et qui forment une contribution à ce jour unique. Je fais référence aux travaux de M. Goudal lui-même et ceux de M. François Grimal. Les autres membres de l'équipe, notamment les spécialistes d'histoire de l'art Mme Valérie Gillet et Charlotte Schmitt, ont participé eux aussi activement à l'organisation de colloques et d'ateliers internationaux, tout en poursuivant leurs propres recherches qui devraient aboutir à la publication d'une thèse et à la soutenance d'une habilitation à diriger des recherches. Les travaux en anthropologie, notamment dans le domaine économique, conduits par M. Pierre Lachère, sont une ouverture sur les enjeux de l'Inde moderne et la translation des valeurs indiennes dans le monde marchand d'Occident, secteur pionnier qui suscite beaucoup d'intérêt. L'équipe bénéficie en outre du travail d'un membre éminent à la retraite, M. Jean Deloche, toujours très actif dans son activité éditoriale et de formation des jeunes chercheurs sur place. Le deuxième programme de l'AXE, Sources textuelles et traditions vivantes, s'intitule « Histoire culturelle et anthropologie des religions en Asie orientale » et réunit sinologues et spécialistes du Japon et de la Corée, sous la direction de Mesdames Anne Bouchy et Marianne Bujard. Le programme de Mme Bujard a mené à bien la préparation d'une série de 5 volumes sur l'histoire et l'épigraphie des temples de Pékin, qui constitue une contribution unique à l'histoire religieuse et sociale de la Chine. La tradition de l'étude des religions chinoises à l'EFIO est représentée par les recherches de M. Alain Arrault sur la religion et les sociétés locales qui bénéficient depuis cette année d'une importante subvention du Harvard China Fund de l'Université de Harvard. Quant aux recherches de Mme Michela Bussotti en histoire du livre, elles ont aussi été importantes avec la publication d'un recueil d'articles en chinois. M. Lu Pengzhe, détaché à Hong Kong, a accompli, en dehors des importantes activités du centre, un travail conséquent d'édition d'un ouvrage en 2 volumes, Early Chinese Religion Part 2, The Period of Division, 220 à 589 de notre ère. Les travaux menés par Mme Elisabeth Chabanol sur le site de Kaesong, capitale de l'ancien royaume de Goryeo, dans le contexte difficile de la recherche archéologique en Corée du Nord, se sont intensifiés et devraient aboutir à la mise en place d'une politique de recherche entre Corée du Nord et Corée du Sud. Les travaux d'ethnologie au Japon de Mme Anne Bouchy arrivent cette année au terme de leur programme Quadriana. Ils entrent désormais dans la phase de préparation de publication des résultats des travaux. Ceux de M. Benoît Jacquet ont constitué une ouverture vers l'étude de la société moderne japonaise par le truchement de l'architecture et des sciences sociales, domaine en évolution théorique constante au Japon et dans le monde anglo-saxon. Le deuxième axe de l'activité scientifique concerne la construction des centres de civilisation. S'y inscrivent 2 programmes. Le premier, Cité ancienne et structuration de l'espace en Asie du Sud-Est, est placé sous la responsabilité de M. Pierre-Yves Manguin et comprend 7 enseignants-chercheurs renforcés par un chercheur contractuel et la collaboration active de membres associés comme M. Gerdy Gershama, responsable du programme Corpus des inscriptions Khmer, ainsi que de plusieurs anciens membres, retraités ou actifs, et de l'apport de nouvelles thématiques issues des travaux des doctorants formés au sein de l'EFIO et de ses centres en Asie du Sud-Est et dans le monde insulindien. Les recherches de M. Daniel Perret ont abouti en particulier à plusieurs projets éditoriaux d'envergure. Nous n'oublions pas la collaboration précieuse de M. Bertrand Porte, responsable de l'atelier de restauration du Musée national de Phnom Penh, et de Mme Cécile Locher, géomaticienne. L'archéologie, l'épigraphie et la muséologie sont les principales disciplines auxquelles se consacrent les membres de cette équipe, qui travaillent tous en étroit partenariat avec les ministères des Affaires étrangères européennes, mais aussi, notamment au cours de l'année 2009-2010, avec des partenaires japonais, Université Sophia, et australiens, Université de Sydney. L'achèvement du chantier de restauration du temple du Bapuan a encore, en 2011, sous la direction de M. Pascal Royer, sera l'un des moments les plus importants de la vie de cette équipe et marquera une transition importante. Au-delà des travaux de chacun de ces chercheurs, l'équipe bénéficie de plusieurs programmes associés qui contribuent à sa vitalité, comme celui conduit par Mme Christine Avixbrock au Laos. Le second programme inscrit dans l'axe « La construction des centres de civilisation » s'intitule « Pouvoir central et résilience du local » et présente la particularité de réunir pour l'essentiel des spécialistes de l'époque moderne et contemporaine. Naturellement, transversale, elle regroupe des horizons thématiques et méthodologiques très divers. Ainsi, si elle s'ouvre aux relations entre la Chine et le Tibet et au procès de sinisation de Mme Fabienne Jagoud, elle traite aussi de l'histoire maritime chinoise. Mme Paula Kalanka a travaillé cette année à la traduction d'un important texte chinois traitant de ces questions, ainsi que sur le fonds du Musée national de la Marine. Messieurs Olivier Tessier, Andrew Hardy et Philippe Lefayet, en dehors de plusieurs publications nouvelles en langue vietnamienne comme en langue occidentale, ont poursuivi leurs nombreuses missions de terrain, de recherche et de formation, sans oublier d'apporter leur concours aux autorités du Vietnam, notamment pour la citadelle de Hanoï. Monsieur Yves Goudineau, professeur invité à l'Université d'Oxford en 2009-2010, a enseigné aussi bien en France qu'au Royaume-Uni et organisé plusieurs colloques et séminaires qui ont rencontré un écho important. D'autres collègues ont travaillé sur l'archivistique du Champa, M. Podharma, et sur les relations entre l'islam et le monde malais sous leurs aspects linguistiques et littéraires, M. Henri Chamberloir. L'ensemble du nombre des publications des membres de cette équipe reflète à la fois l'importance des thématiques communes et les évolutions de leur orientation interdisciplinaire et moderne, conduit à redéfinir en fonction du terrain chaque année. Le troisième et dernier axe pour l'activité scientifique concerne la diffusion du bouddhisme et comprend le programme dirigé par M. Peter Skilling, Transmission et inculturation du bouddhisme en Asie, qui a pour spécificité de réunir des spécialistes d'horizons historiques, géographiques et culturels très variés. Les membres parisiens de cette équipe, M. Olivier de Bernon, Mme Guo Liying et M. Frédéric Girard, dispensent des enseignements réguliers et forment plusieurs doctorants à Paris. Cette activité est également centrale en Thaïlande, où elle mobilise M. François Lagirard et M. Skilling lui-même, sans oublier au Japon les cours dispensés par M. Yanaga Nobumi à Tokyo. Plusieurs membres ont effectué des missions d'enseignement et participé à des colloques à l'étranger. Si les travaux d'édition des textes anciens et d'épigraphie requièrent dans le long terme le travail des chercheurs, la parution d'un ouvrage collectif à destination d'un large public, comme celui dirigé par M. Skilling, Images et imagination, le bouddhisme en Asie, traduit la volonté forte de l'établissement de mettre les recherches des spécialistes à la portée d'un public plus étendu. Dans le cadre d'une nouvelle structuration des services et des procédures, un nouveau comité des éditions de l'FEO, réduit dans sa composition et plus opérationnel, a été créé. Sous la présidence de M. Goudineau, le comité a pour fonction d'encadrer la procédure d'évaluation des manuscrits reçus pour publication et d'assurer la coordination et le suivi des éditions avec le service des éditions du siège, des différents centres publiant de l'école et les comités de rédaction des 6 revues publiées par l'EFEO. En 2009, l'EFEO a relancé la publication de la revue bilingue « Cahiers d'extrême Asie » par le centre de Kyoto, avec la réorganisation de son comité de rédaction aux côtés d'un comité scientifique à la mesure du retentissement international que connaît cette revue. Les cahiers sortent depuis 2009 au rythme soutenu de 2 numéros par an. Nous projetons d'avoir absorbé les retards de publication de ce périodique en 2011. L'EFEO et l'Université chinoise de Hong Kong ont lancé le 26 novembre 2009 à Hong Kong la revue internationale Taoism, Religion, History and Society. Cette nouvelle revue scientifique bilingue accueille des articles en anglais et en chinois. Elle est éditée conjointement par le Centre FEO de Hong Kong et le Centre d'études de la culture taoïste de l'Université chinoise de Hong Kong et diffusée sur papier et sur Internet par la Chinese University Press. La revue vise devenir un forum privilégié d'échanges sur les multiples avancées de la recherche sur le taoïsme. ce domaine d'études connaît un développement dynamique sur plusieurs continents, pour lequel Hong Kong apparaît comme un poste d'observation et d'analyse particulièrement pertinent. L'année 2009-2010 a connu deux grandes avancées. Par l'intermédiaire du Consortium européen pour les études sur le terrain en Asie, ICAF, l'IFIO a pu répondre aux appels d'offres du 7e programme cadre de recherche et de développement technologique, PCRD-7, de la Commission européenne. En 2009-2010, le projet IDEAS, Integrating and Developing European-Asian Studies, soumis par l'IFIO et six partenaires, a été retenu par la Commission. Un budget de 1,2 million d'euros, réparti sur 30 mois, a été alloué par la Commission européenne aux sept institutions qui l'animent à compter du 1er janvier 2010. Le programme IDEAS comprend entre autres une réflexion sur les approches régionales, Area Studies, sous l'aspect des recherches sur le terrain et des débouchés sur les enjeux géopolitiques contemporains. La mission primordiale de l'École française Extrême-Orient, c'est l'intelligence de l'histoire et des cultures du continent asiatique. Celle-ci est indissociable de la compréhension de l'actualité de ce continent. À l'heure où l'Union européenne reconnaît le caractère stratégique que revêt la connaissance de l'Asie pour l'Occident, l'IFIO est bien placé pour apporter une contribution dans ce nouveau contexte pour les études asiatiques. Il ne s'agit pas, au travers du projet IDEAS, de bouleverser les thématiques traditionnelles des recherches de l'IFIO, mais de s'autoriser à ouvrir une réflexion sur des thèmes intéressant un public plus large, ainsi que les décideurs qui aspirent à la construction de passerelles entre la recherche de terrain ou universitaire et la sphère politique. En outre, le programme IDEAS sera amené à expertiser le consortium ICAF et à établir des préconisations pour son bon fonctionnement dans l'esprit, comme l'indique son intitulé, de meilleure intégration et développement des études asiatiques européennes. Enfin, seront à l'étude l'intégration des ressources documentaires, notamment des bases de données électroniques pour les études asiatiques en Europe, très considérables maintenant, en vue d'un accès plus complet et généralisé à l'échelle européenne aux nouveaux outils de recherche dans ce domaine. L'autre avancée concerne les nouveaux corpus numériques de l'IFIO elle-même. Le vaste projet Espace Khmer Ancien, mené entre 2008-2010 par l'IFIO en collaboration avec l'École pratique des hautes études et avec le concours de l'Agence nationale de la recherche, est entré dans sa phase finale, celle de la fabrication et de la validation du logiciel. Le projet interdisciplinaire, histoire, archéologie, épigraphie, histoire de l'art et de l'architecture, restauration monumentale, dirigé par M. Mangin, vise à construire un fonds numérique contenant l'ensemble des riches collections historiques relatives au monde khmer de l'école, ainsi que des données en cours de constitution, archives, rapports de fouilles, nouvelles publications scientifiques, bases de données, images, systèmes d'information géographique, SIG, comme celui qui a produit la carte d'Angkor Thom, la ville royale d'Angkor que vous voyez. Il convient de noter que les rapports individuels des enseignants-chercheurs font état de maintes initiatives particulières, pour la plupart dans le domaine de l'épigraphie et pour certaines en coopération avec d'autres institutions qui viennent continuellement enrichir les ressources électroniques de l'école. Corpus des inscriptions du territoire de Pondichéry de Mme Schmidt, inventaire des inscriptions du monde malais de M. Perret, corpus des inscriptions du Champa de M. Arlo Griffiths, corpus Lanna de M. François Lagirard, Digital Archive for Chinese Local History, Harvard FAO, de M. Haro, épigraphie et mémoire orale des temples de Pékin, de Mme Bujard. La mise en ligne des cahiers d'Extrême-Asie, revue annuelle bilingue en français et en anglais publiée par le centre de l'IFIO à Kyoto, déjà évoqué, a été accomplie en avril 2010 sur le portail des revues scientifiques en sciences humaines et sociales Percé. Ce dernier héberge depuis début 2009 le bulletin de l'École française Extrême-Orient et vient d'entreprendre la numérisation d'art asiatique. La mise en ligne d'une collection de monographies de l'IFIO est à l'étude. Enfin, la numérisation des fonds de la photothèque se poursuit. À côté de ces fonds, les archives institutionnelles de l'FIO, volumineuses, très demandées, et pour les plus anciennes, sur ce support fragile, sont en cours de numérisation sous la direction de Mme Cristina Camarotti, conservatrice des bibliothèques de l'FIO. La numérisation rendra plus efficace l'archivage et la consultation de ces fonds. La bibliothèque procède en même temps au reconditionnement des supports papier des archives historiques afin d'assurer une meilleure conservation des documents primaires. Le temps imparti ne nous permet pas de détailler plus avant les travaux de recherche des 42 enseignants-chercheurs, ni les nombreuses diverses activités des 17 centres de l'FIO dans 12 pays d'Asie. Nous mentionnerons au centre de Chiang Mai, en Thaïlande, les travaux entamés fin août 2009 pour la construction de la nouvelle bibliothèque, lesquels seront achevés au second semestre 2010 avec l'installation des collections d'ouvrages dès cette année. Par ailleurs, les travaux de toiture, d'aménagement et d'équipement des bureaux et locaux de réunion de l'ancien bâtiment du centre se poursuivront jusqu'à la fin de l'année 2010. Le nouveau centre de Chiang Mai a une vocation régionale et sa bibliothèque, d'une richesse exceptionnelle pour les études sur l'Asie du Sud-Est et le bouddhisme Theravada, constituera un maillon important dans la consolidation du réseau documentaire de l'FIO. En parallèle avec ce développement, l'FIO a lancé le projet de construire un nouveau centre à Kyoto. À Kyoto, en lieu des locaux actuels loués par l'FIO et par l'Italian School for East Asian Studies, membre du consortium européen ICOV. L'FIO prévoit la construction d'un bâtiment moderne, mieux adapté à la recherche scientifique sur le terrain situé à proximité de l'Institut de recherche en sciences humaines Jimbun de l'Université de Kyoto. L'FIO a conclu l'acquisition du terrain en avril 2010. Les appels d'offres en vue d'un début de chantier à l'automne 2010 sont en préparation. Le nouveau bâtiment permettra à l'FIO de louer une partie de celui-ci au centre des ICIAS, le centre italien, à Kyoto, d'héberger la bibliothèque intégrée des deux institutions et d'accueillir étudiants et chercheurs invités, notamment des institutions membres du consortium ICAF. Dans le cadre de la coopération scientifique entre FIO, ICIAS, ICAF et les principaux partenaires de l'FIO au Japon, les universités de Kyoto et de Waseda, Tokyo, la bibliothèque orientaliste Toyobonko de Tokyo, toutes trois membres associés du consortium ICAF, le nouveau centre sera appelé à jouer un rôle transversal au sein de l'FIO pour les études non seulement sino-japonaises, mais encore indiennes et sud-est asiatiques. Les réformes administratives de 2009-2010 ont concerné, dans le contexte de la gouvernance des écoles françaises à l'étranger évoquée plus haut, la refonte des statuts de l'établissement. La réforme acte une plus forte représentation des personnels de l'établissement au sein du conseil d'administration, l'élection des présidents des conseils d'administration et scientifiques, respectivement, au sein de ces conseils. Elle porte sur la constitution des conseils, ainsi que sur les modalités de l'élection et la durée du mandat du directeur. Elle ouvre enfin une plus grande souplesse dans les modes de recrutement des personnels scientifiques. L'option du décret unique présente l'avantage de renforcer le réseau des 5 écoles françaises à l'étranger en mettant en exergue leurs missions communes et en facilitant la mutualisation de leurs compétences. À l'issue des débats et négociations entre les directeurs des écoles françaises à l'étranger, des présidents des conseils, des services du ministère, notre académie qui était un interlocuteur privilégié dans ce processus, et les personnels des 5 écoles, nous avons constaté avec satisfaction que les nouveaux statuts tiennent compte des spécificités des établissements, pour ce qui concerne les FIO notamment, du statut particulier de ces enseignants-chercheurs et centres permanents en Asie. La version en date du 29 mars 2010 du projet de décret a été validée par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Le comité technique paritaire de l'FIO, nouvellement constitué pour cette occasion, s'est prononcé sur le projet en mai. Les prochaines étapes comprennent l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et l'examen du texte du décret par le Conseil d'État. La publication du décret est attendue avant la fin de l'année 2010. Au plan administratif, plusieurs nouvelles instances ont été mises en place ou mises au point en 2009-2010. Outre le comité des éditions déjà mentionné, il s'agit du comité des systèmes d'information et du comité des bourses. L'objectif de ces initiatives est de développer les richesses scientifiques dans le contexte des nouveaux outils technologiques, comité des systèmes d'information, et de formaliser l'organisation de la campagne de bourse accordée par le FEO, comité des bourses. Le recours à de nouvelles ressources financières, y compris à l'extérieur de la sphère publique, s'avère indispensable au développement de l'FEO, dans le contexte de la forte réduction des subventions accordées par le ministère des Affaires étrangères et européennes évoquées au préalable. La voie européenne où s'est engagé l'FEO, avec le plein soutien du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, est la meilleure assurance pour le maintien de l'identité de l'FEO au sein des écoles françaises à l'étranger, dans le secteur de la recherche française, et de sa place de coordinateur au niveau européen pour les études sur le terrain en Asie. Un nouvel accord signé en 2009 avec l'Agence française de développement a ouvert des perspectives d'une riche collaboration entre les deux institutions sur le terrain en Asie. Enfin, l'FEO a continué à développer en France et en Asie ses partenariats avec plusieurs grandes entreprises, notamment les groupes LVMH, Vinci et Total. Pour ce qui concerne le développement des réseaux de l'FEO en France et à l'étranger, le partenariat de l'École française d'Extrême-Orient avec le Musée national des arts asiatiques Guimet et le groupe LVMH au sein du pôle IENA s'est poursuivi en 2009-2010 avec la publication du numéro 64-2009 de la revue annuelle Art asiatique et l'organisation du troisième cycle annuel des conférences IENA. L'FEO est redevable à M. Philippe Papin, directeur d'études à l'EPHE, qui a pris en charge la coordination du cycle 2009-2010 sous le thème « L'imagerie d'Asie orientale, Chine, Japon, Vietnam », ainsi qu'au groupe LVMH pour le généreux soutien accordé à cette manifestation qui touche un public nombreux et fidèle. L'harmonisation des statuts des écoles françaises à l'étranger va donner une nouvelle impulsion à la mise en réseau des 5 établissements. Dans un premier temps, la création d'un portail commun est en cours de réalisation pour la diffusion en ligne des publications. Enfin, l'FEO a répondu favorablement à l'invitation fin 2009 à rejoindre un nouveau pôle de recherche et d'enseignement supérieur, PRESS, évoqué en préalable. Celui-ci, provisoirement nommé ESSAM, pour Hautes études, Sorbonne, Arts et Métiers, a pour membre fondateur le Conservatoire national des arts et métiers, l'École française d'Extrême-Orient, l'École des hautes études en sciences sociales, l'École nationale des chartes, l'École nationale supérieure des arts et métiers, l'École nationale supérieure de création industrielle, l'École pratique des hautes études, l'École supérieure de commerce de Paris et l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Les membres associés incluent l'École nationale d'administration et l'Institut national d'histoire de l'art. La structure juridique retenue pour ce PRESS est celle d'un établissement public de coopération scientifique. Confédération peu contraignante qui respectera l'autonomie et l'identité propre de chaque institution membre. La participation de l'FEO au pôle ESSAM est de nature à conforter la place de l'école dans le paysage institutionnel parisien de la recherche et de la formation. L'FEO contribuera à cet ensemble notamment sa dimension internationale et un accès privilégié au réseau de ses implantations scientifiques en Asie. Une convention et les statuts de l'établissement public sont en cours d'élaboration mi-2010. Monsieur Goudineau, chargé d'une mission partenariat institutionnel auprès du directeur, assure la liaison de l'FEO avec les instances de presse ESSAM. Le bilan en 2009-2010 du consortium européen ICAF montre en termes d'accueil dans les centres Kyoto, Pékin, Pondichéry, Jakarta et Bangkok une densification des liens entre les FIO et les membres du consortium, tels les universités d'Oxford, de Heidelberg, de Hambourg et de Leyde, les PHE également et la SOAS de Londres, School of Oriental and African Studies. De nouveaux partenaires ont postulé pour rejoindre le consortium ICAF en tant que membre en Allemagne, en Autriche et en Finlande, et en tant que membre associé en Indonésie et au Japon. Les bourses FIO et celles de l'Académie britannique ont été ouvertes aux candidats européens, permettant à l'FIO d'accueillir les étudiants des institutions partenaires du consortium ICAF. Par ailleurs, la fondation portugaise Calouste Gulbenkian a mis deux bourses annuelles destinées aux recherches sur l'histoire de la présence du Portugal en Asie à la disposition des partenaires du consortium. La troisième réunion générale annuelle du consortium ICAF s'est tenue le samedi 9 janvier à Hambourg. Sous les auspices du professeur Michael Friedrich de Asian Africa Institute de l'Université de Hambourg. La réunion a entre autres approuvé la demande de la prestigieuse Université de Waseda, que vous voyez ici, Tokyo, d'adhérer au consortium comme membre associé. La réunion semestrielle du comité de pilotage s'est tenue en juillet 2010 à l'Académie des sciences de la République tchèque à Prague. La prochaine réunion générale du consortium ICAF sera accueillie au mois de janvier 2011 par l'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente à Rome. Les faits marquants de l'année ont compris la visite officielle en France le 13 juillet 2009 de M. Hun Sen, Premier ministre du gouvernement royal du Cambodge. Les rencontres organisées au Quai d'Orsay ont donné lieu à un échange concernant les futurs projets de conservation monumentale menés par l'École française d'Extrême-Orient et le ministère des Affaires étrangères français au Cambodge, à la suite de l'achèvement du chantier de restauration du temple Papuan. La réunion générale biennale de l'FIO s'est tenue à Hanoï, siège historique de l'institution, les 7 et 8 septembre 2009. Organisée par M. Hardy, responsable du centre FIO de Hanoï et son équipe, elle a rassemblé les enseignants-chercheurs en poste en France et en Asie, ainsi que les responsables des services centraux du siège. Le choix de Hanoï a permis notamment à tous les participants de découvrir les derniers travaux du centre de l'FIO avec ses partenaires au Vietnam, ainsi que ceux de l'équipe Pouvoir central et résilience du local en Asie du Sud-Est. La réunion s'est prolongée avec la visite du site archéologique Pading, ancienne citadelle de Hanoï, suivie de la signature d'un accord de coopération entre l'FIO et l'Académie des sciences sociales du Vietnam concernant la création d'un musée sur le site, lequel sera inauguré la semaine prochaine à l'occasion du millénaire de la ville d'Hanoï. Un dîner a clôturé la réunion dans la rotonde du Musée national d'histoire, l'ancien musée Louis Finot, construit par l'FIO en 1933, en présence de Son Excellence Feu Hervé Bolo, ambassadeur de France au Vietnam, dont nous avons été choqués d'apprendre le décès brutal cet été, et de M. Christian Jacob, ancien ministre et président de la délégation de l'Assemblée nationale à l'aménagement et au développement durable du territoire, et de nombreuses personnalités vietnamiennes. Les enjeux d'actualité au cœur des débats ont donné lieu à la publication d'une synthèse École française Extrême-Orient, Réunion générale Hanoï, FIO 2009. Le lancement du projet PCRD7 ADIAS et la première réunion de son comité de pilotage sous la présidence du directeur de l'FIO ont eu lieu le 8 janvier 2010 à l'Asian Africa Institute de l'Université de Hambourg. Le Sénat de la ville libre et hanséatique de Hambourg a honoré les participants d'une réception à l'hôtel de ville le même jour. L'inventaire des archives du roi Norodom Sihanouk, donné à l'École française Extrême-Orient et déposé aux archives nationales 1970-2007, préfacé par le président de la République, M. Nicolas Sarkozy, a été remis à Sa Majesté le roi père Norodom Sihanouk par M. de Bernon, éditeur de l'ouvrage, au cours d'une audience à Pékin en février 2010. La veille de l'installation de Sa Majesté Norodom Sihamoni, roi du Cambodge, à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, comme associé étranger, une cérémonie de remise des présents symboliques d'académiciens à Sa Majesté s'est déroulée au siège de l'École française d'Extrême-Orient en mars. France 5 a diffusé en avril 2010 un documentaire cinématographique sur les fuyaux au Cambodge, encore l'aventure du Papouane, film réalisé par Didier Fascio en coproduction Ciné TV et les fuyaux. Enfin, Franciscus Verhelen, représentant de l'Institut de France auprès du Commissariat général du pavillon français, a coordonné les contributions de l'Institut de France à l'exposition universelle de Shanghai 2010, comprenant un cycle de conférences et la projection d'un film diffusé sur écran au sein du pavillon de France et sur la chaîne télévisée de ce dernier. Je vous remercie de votre attention.
C'était Franciscus Verhelen de l'Académie des inscriptions et belles-lettres qui présentait le 24 septembre 2010 en grande salle des séances de l'Institut de France le rapport des activités de l'École française d'Extrême-Orient en 2009-2010 dont il est directeur.